Chapitre 2. Préparatifs de bataille. Le camp du nouveau duc de Brabant était assis sur les deux rives de l'Escaut. L'armée, bien disciplinée, était cependant agitée, et cela est facile à comprendre. En effet, beaucoup de calvinistes assistaient le duc d'Anjou, non point par sympathie pour le susdit duc, mais pour être aussi désagréable que possible à l'Espagne et aux catholiques de France et d'Angleterre. Ils se battaient donc plutôt par amour-propre que par conviction ou par dévouement, et l'on sentait bien que la campagne, une fois finie, ils abandonneraient le chef ou lui imposeraient des conditions. D'ailleurs, ces conditions, le duc d'Anjou laissait toujours croire qu'à leur venue, il irait au-devant d'elles. Son mot favori était « Henri de Navarre, ses bienfaits catholiques, pourquoi François de France ne se ferait-il pas huguenot ?» De l'autre côté, au contraire, c'est-à-dire chez l'ennemi, existaient, en opposition avec ses dissidences morales et politiques, des principes distincts, une cause parfaitement arrêtée, le tout parfaitement pur d'ambition et de colère. Anvers avait d'abord eu l'intention de se donner, mais à ses conditions et à son heure. Elle ne refusait pas précisément François, mais elle se réservait d'attendre, forte par son assiette, par le courage et l'expérience belliqueuse de ses habitants. Elle savait d'ailleurs qu'en étendant le bras, outre le duc de Guise, en observation dans la Lorraine, elle trouvait Alexandre Farnèse dans le Luxembourg. Pourquoi, en cas d'urgence, n'accepterait-elle pas les secours de l'Espagne contre Anjou, comme elle avait accepté le secours d'Anjou contre l'Espagne, quitte après cela à repousser l'Espagne, après que l'Espagne l'aurait aidée à repousser Anjou? Ces républicains monotones avaient pour eux la force d'airain du bon sens. Et tout à coup, ils virent apparaître une flotte à l'embouchure de l'Escaut, et ils apprirent que cette flotte arrivait avec le grand amiral de France, et que ce grand amiral de France amenait un secours à leur ennemi. Depuis qu'il était venu mettre le siège devant Anvers, le duc d'Anjou était devenu naturellement l'ennemi des Anversois. En apercevant cette flotte et en apprenant l'arrivée de Joyeuse, les calvinistes du duc d'Anjou firent une grimace presque égale à celle que faisaient les Flamands. Les calvinistes étaient fort braves, mais en même temps fort jaloux. Ils passaient facilement sur les questions d'argent, mais n'aimaient point qu'on vînt rogner leurs lauriers, surtout avec des épées qui avaient servi à saigner tant de huguenots au jour de la Saint-Barthélemy. De là, force querelles qui commencèrent le soir même de l'arrivée de Joyeuse et se continuèrent triomphalement le lendemain et le surlendemain. Du haut de leurs remparts, les Anversois avaient chaque jour le spectacle de 10 ou 12 duels entre catholiques et huguenots. Les polders servaient de champs clos et l'on jetait dans le fleuve beaucoup plus de morts qu'une affaire en rase campagne n'en eût coûté aux Français. Si le siège d'Anvers, comme celui de Troyes, eût duré 9 ans, les assiégés n'eussent eu besoin de rien faire autre chose que de regarder faire les assiégeants, ceux-ci se fussent certainement détruits eux-mêmes. François faisait dans toutes ces querelles l'office de médiateur, mais non sans d'énormes difficultés. Il y avait des engagements pris avec les huguenots français, blesser ceux-ci, c'était se retirer l'appui moral des huguenots flamands qui pouvaient l'aider dans Anvers. D'un autre côté, brusquer les catholiques envoyés par le roi pour se faire tuer à son service était pour le duc d'Anjou chose non seulement impolitique, mais encore compromettante. L'arrivée de ce renfort, sur lequel le duc d'Anjou lui-même ne comptait pas, avait bouleversé les Espagnols. De leur côté, les Lorrains en crevaient de fureur. C'était bien quelque chose pour le duc d'Anjou que de jouir à la fois de cette double satisfaction, mais le duc ne ménageait point ainsi tous les partis sans que la discipline de son armée en souffrît fort. Joyeuse, à qui la mission n'avait jamais souri, on se le rappelle, se trouvait mal à l'aise au milieu de cette réunion d'hommes si divers de sentiments. Il sentait instinctivement que le temps des succès était passé. Quelque chose comme le pressentiment d'un grand échec courait dans l'air, et dans sa paresse de courtisan, comme dans son amour-propre de capitaine, il déplorait d'être venu de si loin pour partager une défaite. Aussi trouvait-il en conscience et disait-il tout haut que le duc d'Anjou avait eu grand tort de mettre le siège devant Anvers. Le prince d'Orange, qui lui avait donné ce traître conseil, avait disparu depuis que le conseil avait été suivi, et l'on ne savait pas ce qu'il était devenu. Son armée était en garnison dans cette ville, et il avait promis au duc d'Anjou l'appui de cette armée. Cependant, on n'entendait pas le moins du monde qu'il y eût division entre les soldats de Guillaume et les Anversois, et la nouvelle d'un seul duel entre les assiégés n'était pas venue réjouir les assiégeants depuis qu'ils avaient assis leur camp devant la place. Ce que Joyeuse faisait surtout valoir dans son opposition au siège, c'est que cette ville importante d'Anvers était presque une capitale. Or, posséder une grande ville par le consentement de cette grande ville, c'était un avantage réel. Mais prendre d'assaut la deuxième capitale de ses futurs états, c'était s'exposer à la désaffection des Flamands, et Joyeuse connaissait trop bien les Flamands pour espérer, en supposant même que le duc d'Anjou prit Anvers, qu'il ne se vengerait pas tôt ou tard de cette prise et avec usure. Cette opinion Joyeuse l'exposait tout haut dans la tente du duc, cette nuit même où nous avons introduit nos lecteurs dans le camp français. Pendant que le conseil se tenait entre ses capitaines, le duc était assis, ou plutôt couché, sur un long fauteuil qui pouvait au besoin servir de lit de repos, et il écoutait non point les avis du grand amiral de France, mais les chuchotements de son joueur de lutte, Aurilly. Aurilly, par ses lâches complaisances, par ses basses flatteries et par ses continuelles assiduités, avait enchaîné la faveur du prince. Jamais il ne l'avait servi comme avaient fait ses autres amis, en desservant soit le roi, soit de puissants personnages, de sorte qu'il avait évité l'écueil où la Mole, Coconas, Bussy et tant d'autres s'étaient brisés. Avec son lutte, avec ses messages d'amour, avec ses renseignements exacts sur tous les personnages et les intrigues de la cour, avec ses manœuvres habiles pour jeter dans les filets du duc la proie qu'il convoitait, quelle que fût cette proie, Aurilly avait fait sous main une grande fortune, adroitement disposée en cas de revers, de sorte qu'il paraissait toujours être le pauvre musicien Aurilly, courant après un écu et chantant comme les cigales lorsqu'il avait faim. L'influence de cet homme était immense, parce qu'elle était secrète. Joyeuse, en le voyant couper ainsi dans ses développements de stratégie et détourner l'attention du duc, Joyeuse se retira en arrière, interrompant tout net le fil de son discours. François avait l'air de ne pas écouter, mais il écoutait réellement. Aussi, cette impatience de Joyeuse ne lui échappa-t-elle point, et sur le champ, « Monsieur l'amiral, dit-il, qu'avez-vous ? » ?»« Rien, monseigneur, j'attends seulement que votre Altesse ait le loisir de m'écouter. » « Mais j'écoute, monsieur de Joyeuse, j'écoute, répondit allègrement le duc. Ah, vous autres parisiens, vous me croyez donc bien épaissi par la guerre de Flandre, pour que vous pensiez que je ne puis écouter deux personnes parlant ensemble quand César dictait sept lettres à la fois. « Monseigneur, répondit Joyeuse, en lançant au pauvre musicien un coup d'œil sous lequel celui-ci plia avec son humilité ordinaire, je ne suis pas un chanteur pour avoir besoin que l'on m'accompagne quand je parle. « Bon, bon, duc, taisez-vous, Aurilly. » Aurilly s'inclina. « Donc, continua François, vous n'approuvez pas mon coup de main sur Anvers, monsieur de Joyeuse. « Non, monseigneur. » J'ai adopté ce plan en conseil, cependant. Aussi, monseigneur, n'est-ce qu'avec une grande réserve que je prends la parole après tant d'expérimentés capitaines. Et Joyeuse, en homme de cour, salua autour de lui. Plusieurs voix s'élevèrent pour affirmer au grand amiral que son avis était le leur. D'autres, sans parler, firent des signes d'assentiment. « Comte de Saint-Aignan, dit le prince à l'un de ses plus braves colonels, vous n'êtes pas de l'avis de monsieur de Joyeuse, vous ?»« Si fait, monseigneur, répondit monsieur de Saint-Aignan. Ah, c'est que, comme vous faisiez la grimace... » Chacun se mit à rire. Joyeuse pâlit, le comte rougit. « Si monsieur le comte de Saint-Aignan, dit Joyeuse, a l'habitude de donner son avis de cette façon, c'est un conseiller peu poli, voilà tout. » Monsieur de Joyeuse, repartit vivement Saint-Aignan, son Altesse a eu tort de me reprocher une infirmité contractée à son service. J'ai, à la prise de Cateau-Cambrésis, reçu un coup de pic dans la tête, et depuis ce temps j'ai des contractions nerveuses, ce qui occasionne les grimaces dont se plaint son Altesse. Ce n'est pas toutefois une excuse que je vous donne, monsieur de Joyeuse, c'est une explication, dit fièrement le comte en se retournant. Non, monsieur, dit Joyeuse en lui tendant la main, c'est un reproche que vous me faites et vous avez raison. Le sang monta au visage du duc François. Et à qui ce reproche, dit-il? Mais à moi, probablement, monseigneur. Pourquoi Saint-Aignan vous ferait-il un reproche, monsieur de Joyeuse, à vous qu'il ne connaît pas? Parce que j'ai pu croire un instant que monsieur de Saint-Aignan aimait assez peu votre Altesse pour lui donner le conseil de prendre Anvers. Mais enfin, s'écria le prince, il faut que ma position se dessine dans le pays. Je suis duc de Brabant et comte de Flandre, de nom. Il faut que je le sois aussi, de fait. Ce taciturne qui se cache je ne sais où m'a parlé d'une royauté. Où est-elle, cette royauté? Dans Anvers. Où est-il, lui? Dans Anvers aussi, probablement. Eh bien, il faut prendre Anvers, et Anvers pris, nous saurons à quoi nous en tenir. Eh, monseigneur, vous savez déjà, sur mon âme, où vous seriez en vérité moins bon politique qu'on ne le dit. Qui vous a donné le conseil de prendre Anvers? Monsieur le prince d'Orange, qui a disparu au moment de se mettre en campagne. Monsieur le prince d'Orange, qui, tout en laissant votre Altesse duc de Brabant, s'est réservé la lieutenance générale du duché. Le prince d'Orange, qui a intérêt à ruiner les Espagnols par vous, et vous par les Espagnols. Monsieur le prince d'Orange, qui vous remplacera, qui vous succédera, s'il ne vous remplace ou ne vous succède déjà? Le prince d'Orange. Eh, monseigneur, jusqu'à présent, en suivant les conseils du prince d'Orange, vous n'avez fait qu'indisposer les Flamands. Vienne un revers, et tous ceux qui n'osent vous regarder en face courront après vous comme ces chiens timides qui ne courent qu'après les fuyards. Quoi, vous supposez que je puisse être battu par des marchands de laine, par des buveurs de bière? Ces marchands de laine, ces buveurs de bière ont donné fort affaire au roi Philippe de Valois, à l'empereur Charles V et au roi Philippe II, qui étaient trois princes d'assez bonne maison, monseigneur, pour que la comparaison ne puisse pas vous être trop désagréable. Ainsi, vous craignez un échec? Oui, monseigneur, je le crains. Vous ne serez donc pas là, monsieur de Joyeuse? Pourquoi donc n'y serais-je point? Parce que je m'étonne que vous doutiez à ce point de votre propre bravoure, que vous vous voyez déjà en fuite devant les Flamands. En tout cas, rassurez-vous, ces prudents commerçants ont l'habitude, quand ils marchent au combat, de s'affubler de trop lourdes armures pour qu'ils aient la chance de vous atteindre, courussent-ils après vous. Monseigneur, je ne doute pas de mon courage. Monseigneur, je serai au premier rang, mais je serai battu au premier rang, tandis que d'autres le seront au dernier, voilà tout. Mais enfin, votre raisonnement n'est pas logique, monsieur de Joyeuse. Vous approuvez que j'ai pris les petites places. J'approuve que vous preniez ce qui ne se défend point. Eh bien, après avoir pris les petites places qui ne se défendaient pas, comme vous le dites, je ne reculerai pas devant la grande parce qu'elle se défend, ou plutôt parce qu'elle menace de se défendre. Et votre Altesse a tort, mieux vaut reculer sur un terrain sûr que de trébucher dans un fossé en continuant de marcher en avant. Soit, je trébucherai, mais je ne reculerai pas. Votre Altesse se fera ici comme elle voudra, dit Joyeuse en s'inclinant, et nous, de notre côté, nous ferons comme voudra son Altesse. Nous sommes ici pour lui obéir. Ce n'est pas répondre, duc. C'est cependant la seule réponse que je puisse faire à votre Altesse. Voyons, prouvez-moi que j'ai tort, je ne demande pas mieux que de me rendre à votre avis. Monseigneur, voyez l'armée du prince d'Orange, elle était vôtre, n'est-ce pas? Eh bien, au lieu de camper avec vous devant Anvers, elle est dans Anvers, ce qui est bien différent. Voyez le taciturne, comme vous l'appelez vous-même. Il était votre ami et votre conseiller. Non seulement vous ne savez pas ce qu'il est devenu, le conseiller, mais encore vous croyez être sûr que l'ami s'est changé en ennemi. Voyez les Flamands. lorsque vous étiez en Flandre, ils pavoisaient leurs barques et leurs murailles en vous voyant arriver. Maintenant, ils ferment leurs portes à votre vue et braquent leurs canons à votre approche, ni plus ni moins que si vous étiez le duc d'Albe. Eh bien, je vous le dis, Flamands et Hollandais, Anvers et Orange, n'attendent qu'une occasion de s'unir contre vous, et ce moment sera celui où vous crierez feu à votre maître d'artillerie. Eh bien, répondit le duc d'Anjou, on battra du même coup Anvers et Orange, Flamands et Hollandais. Non, monseigneur, parce que nous avons juste assez de monde pour donner l'assaut à Anvers, en supposant que nous n'ayons affaire qu'aux Anversois, et que, tandis que nous donnerons l'assaut, le taciturne tombera sur nous sans rien dire, avec ses éternels 8 ou 10 000 hommes, toujours détruits et toujours renaissants, à l'aide desquels, depuis 10 ou 12 ans, il tient en échec le duc d'Albe, dont Juan Requesens est le duc de Parme. Ainsi, vous persistez dans votre opinion, dans laquelle, que nous serons battus, immanquablement. Eh bien, c'est facile à éviter, pour votre part du moins, monsieur de Joyeuse, continua aigrement le prince. Mon frère vous a envoyé vers moi pour me soutenir. Votre responsabilité est à couvert si je vous donne congé en vous disant que je ne crois pas avoir besoin d'être soutenu. Votre Majesté peut me donner congé, dit Joyeuse, mais à la veille d'une bataille, ce serait une honte pour moi que de l'accepter. Un long murmure d'approbation accueillit les paroles de Joyeuse. Le prince comprit qu'il avait été trop loin. Mon cher amiral, dit-il en se levant et en embrassant le jeune homme, vous ne voulez pas m'entendre. Il me semble pourtant que j'ai raison, ou plutôt que, dans la position où je suis, je ne puis avouer tout haut que j'ai eu tort. Vous me reprochez mes fautes, je les connais, j'ai été trop jaloux de l'honneur de mon nom, j'ai trop voulu prouver la supériorité des armes françaises, donc j'ai tort. Mais le mal est fait, hein. Voulez-vous commettre un pire ? Nous voici devant des gens armés, c'est-à-dire devant des hommes qui nous disputent ce qu'ils m'ont offert. « Voulez-vous que je leur cède ? Demain, alors, ils reprendront pièce à pièce ce que j'ai conquis. Non, l'épée est tirée, frappons, ou sinon, nous serons frappés. Voilà mon sentiment. » « Du moment où votre Altesse parle ainsi, dit Joyeuse, je me garderai d'ajouter un mot. Je suis ici pour vous obéir, monseigneur, et d'aussi grand cœur, croyez-le bien, si vous me conduisez à la mort que si vous me meniez à la victoire. » Cependant, mais non, monseigneur. Quoi ? Non, je veux et je dois me taire. Ah, non, par Dieu, dites, amiral, dites, je le veux. Alors, en particulier, monseigneur. En particulier ? Oui, s'il plaît à votre Altesse. Tous se levèrent et reculèrent jusqu'aux extrémités de la spacieuse tente de François. Parlez, dit celui-ci. Monseigneur peut prendre indifféremment un revers que lui infligerait l'Espagne, un échec qui rendrait triomphant ces buveurs de bière de Flamands ou ce prince d'Orange à double face. Mais s'accommoderait-il aussi volontiers de faire rire à ses dépens monsieur le duc de Guise ? François fronça le sourcil. Monsieur de Guise, dit-il, qu'a-t-il à faire dans tout ceci ? « Monsieur de Guise, continua Joyeuse, a tenté, dit-on, de faire assassiner monseigneur. Si Salcède ne l'a pas avoué sur l'échafaud, il l'a avoué à la gêne. Or, c'est une grande joie à offrir aux Lorrains, qui jouent un grand rôle dans tout ceci, où je m'y trompe fort, que de nous faire battre sous Anvers et de lui procurer, qui sait, sans bourse déliée, cette mort d'un fils de France qu'il avait promis de payer si cher à Salcède. Lisez l'histoire de Flandre, monseigneur, et vous y verrez que les Flamands ont pour habitude d'engraisser leurs terres avec le sang des princes les plus illustres et des meilleurs chevaliers français. » Le duc secoua la tête. « Eh bien, soit Joyeuse, dit-il, je donnerai, s'il le faut, au Lorrain maudit la joie de me voir mort, mais je ne lui donnerai pas celle de me voir fuyant. J'ai soif de gloire, Joyeuse, car seul de mon nom j'ai encore des batailles à gagner. » Et Cato Cambrésis que vous oubliez, monseigneur, il est vrai que vous êtes le seul. Comparez donc cette escarmouche à Jarnac et à Moncontour joyeuse, et faites le compte de ce que je redois à mon bien-aimé frère Henri. Non, non, ajouta-t-il, je ne suis pas un roitelet de Navarre, je suis un prince français, moi. » Puis, se retournant vers les seigneurs qui, aux paroles de Joyeuse, s'étaient éloignés, « Messieurs, ajouta-t-il, l'assaut tient toujours. La pluie a cessé, les terrains sont bons, nous attaquerons cette nuit. » Joyeuse s'inclina. « Monseigneur voudra bien détailler les ordres, dit-il, nous les attendons. Vous avez 8 vaisseaux, sans compter la galère amirale, n'est-ce pas, monsieur de Joyeuse ?»« Oui, monseigneur. » Vous forcerez la ligne, et ce sera chose facile, les Anversois n'ayant dans le port que des vaisseaux marchands. Alors vous viendrez vous embosser en face du quai. Là, si le quai est défendu, vous foudroierez la ville en tentant un débarquement avec vos 1500 hommes. Du reste de l'armée, je ferai 2 colonnes, l'une commandée par monsieur le comte de Saint-Aignan, l'autre commandée par moi-même. Toutes deux tenteront l'escalade par surprise au moment où les premiers coups de canon partiront. La cavalerie demeurera en réserve en cas d'échec pour protéger la retraite de la colonne repoussée. De ces 3 attaques, l'une réussira certainement. Le premier corps établi sur le rempart tirera une fusée pour rallier à lui les autres corps. « Mais il faut tout prévoir, monseigneur, dit Joyeuse. » Supposons ce que vous ne croyez pas supposable, c'est-à-dire que les 3 colonnes d'attaque soient repoussées, toutes 3. Alors nous gagnons les vaisseaux sous la protection du feu de nos batteries et nous nous répandons dans les polders, où les Anversois ne se hasarderont point à nous venir chercher. On s'inclina en signe d'adhésion. « Maintenant, messieurs, dit le duc, du silence, qu'on éveille les troupes endormies, qu'on embarque avec ordre, que pas un coup de feu, pas un coup de musquet ne révèle notre dessein. Vous serez dans le port, amiral, avant que les Anversois se doutent de votre départ. Nous qui allons le traverser et suivre la rive gauche, nous arriverons en même temps que vous. Allez, messieurs, et bon courage !» Le bonheur qui nous a suivis jusqu'ici ne craindra point de traverser l'Escaut avec nous. » Les capitaines quittèrent la tente du prince et donnèrent leurs ordres avec les précautions indiquées. Bientôt, toute cette fourmilière humaine fit entendre son murmure confus, mais on pouvait croire que c'était celui du vent se jouant dans les gigantesques roseaux et parmi les herbages touffus des polders. L'amiral s'était rendu à son bord.